Bonjour, bienvenue à Escal 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Swartman à la technique. Oui, je suis un peu essoufflé parce que j'étais en train de chercher à savoir quel est le résultat de soccer de la demi-finale Cameroun-Égypte pour la CAN 2022. Oh, les lions indomptables sont tombés, paraît-il. Bon, je ne vais pas aller comme ça. Vite en besogne. Alors Nicolas, on en parlera tout de suite avec Myriam de toutes les façons. En première partie d'émission, c'est mercredi, ça tombe bien d'ailleurs, Myriam est déjà... Non, on va l'appeler un peu plus tard, après la première pièce musicale, ou bien au cours de la première pièce musicale. Et Myriam va nous parler de sport, de soccer et autres, tennis... Et voilà, jeu d'hiver en Chine. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Nicolas Béribé qui nous sort encore un autre livre sur les sous, le pognon, l'argent, tout ça. Bon, mais c'est tout un mélange, quoi. Voilà. De zéro à millionnaire investi en bourse sans souffrir. Alors là, je suis bien curieux. Le livre, moi, je l'ai parcouru. Bon, ben, il y a des choses qui m'ont fait sourire, mais j'adore la manière dont il aborde le sujet. Alors, vous savez, Nicolas Bérubé, c'est un journaliste à la presse, en général à la presse. C'est pas son premier livre sur cette histoire de comment s'enrichir, ou bien comment se faire de l'argent, ou bien comment épargner, comment investir. C'est son deuxième, des zéros à millionnaire. C'est en fonction des questions que les gens lui ont portées quand il a fait le lancement du premier livre. C'est à partir de là que l'idée lui est venue de sortir ce deuxième livre, d'ailleurs, des zéros à millionnaire. Alors... Restez à l'écoute en deuxième partie d'émission après la petite pause publicitaire et la première plage musicale. Nicolas Bérubé sera avec nous pour parler de son dernier livre De zéro à millionnaire, investi en bourse sans souffrir. On va en musique, comme d'habitude. On démarre avec qui, Nicolas? Avec Léa Jarry et en ouais, complicité parole avec Pierre-Alexandre Plouffe. Étranger.
Même si tout va bien et qu'on se sent fort, même si mon instinct m'impose l'espoir, par un beau matin tu penses que je dors, mais j'imagine un autre décor. Trop de temps perdu à chercher la faute, personne à blâmer pour se sentir mieux.
oui, Léa Jarry avec aussi la complicité de Pierre-Alexandre Plouf, étranger. Alors, je pense bien que Myriam m'a entendu quand je parlais de cette histoire de Cameroun-Égypte.
Voilà. Oui.
Je ne sais pas, j'étais en train de jeter un soufflé là, je voulais à tout prix voir le résultat des tirs au but.
Alors, ça y est, l'Égypte est qualifiée.
Alors là, je savais, je dis à Louis, au chef d'antenne, et attends, Myriam, de toutes les façons, lui, il a trouvé tout de suite. Alors, et j'ai dit, bon ben Myriam va nous en parler de toutes les façons. Bonjour Myriam Larache.
Bonjour Monsieur Blas, bonjour à tous nos auditeurs, et je vais le dire maintenant à chaque émission, aux fidèles et aux infidèles. Bonjour.
Bonjour à toi, comment vas-tu?
Ça va très bien, nous sommes avant cette finale qui se voit maintenant. C'est finaliste que l'on voit pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisque tu as commencé avec ça.
Oui.
Nous aurons qui?
Le Sénégal
contre l'Égypte. Il fallait s'y attendre presque. C'est pas une grande surprise, en fait. Hein.
Ouais.
Mais bon,
ouais,
à part l'Algérie qui n'est pas là, qui est partie très tôt, elle aurait pu venir donc déranger, mais elle n'a pas donné ce qu'il fallait donner. Les Marocains sont arrivés jusqu'en demi-finale ou quart de finale?
Quart de finale.
Alors, voilà.
Les Ivoiriens étaient sortis avant les quarts de finale.
Oui, mais les Ivoiriens, après, nous ont soutenus. Ils voulaient qu'on gagne.
Ah bon?
Ah oui, dans les blogs, là, ils étaient pour nous, là. Ils disaient, maintenant, il faut gagner, les amis, là.
Ouais, chacun supporte quelle est l'équipe qu'il veut,
exact.
Quoi, voilà, c'est ça.
Exact. Mmh. Alors, écoute, ça sera le 6 février, un match attendu, n'est-ce pas, par toute la communauté africaine et par ceux, les amateurs de foot, en gros, au fait.
Oui.
C'est intéressant de voir. Alors, on vous en parlera certainement la semaine prochaine maintenant. On va passer aux Jeux Olympiques d'hiver Fujian, ça y est. Dans quelques heures, ce sera la cérémonie d'ouverture officielle de ces 24e Jeux Olympiques d'hiver.
Moi, j'aimerais bien savoir les conditions dans lesquelles ils vont faire ces Jeux-là. Quoi, là.
Et la Chine est prête. Soulignons que ce qui laisse le monde le plus perplexe, c'est que la région choisie est une zone Fujian aride et que 100% de la neige est artificielle, et ce pour toutes les épreuves. Alors, comme l'a clamé à la veille de ces Jeux le président du CIO, Thomas Bach, avec l'image du site olympique du ski alpin bâti de toutes pièces au milieu des montagnes, nous pouvons le dire aujourd'hui, la Chine est un pays de sport d'hiver. Écoute, ils ont rendu une région hivernale.
Bon, ça veut dire qu'en Afrique, on peut faire la même chose, quoi.
Oui,
voilà.
Ça demande beaucoup de machines.
Beaucoup de machines et puis bon, remplir la neige un peu partout et puis organiser beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, je veux dire.
Exact. Mm-hmm. Mais beaucoup de machines qui ont été, qui sont allées chercher à l'étranger, hein, chez les Français, chez les Américains, tout ça. Hein.
Parce que c'est un événement international.
Mm-hmm. Exact. Mm-hmm. Alors, le président a en revanche fait aucune allusion au boycott diplomatique décrété notamment par les États-Unis, l'Australie et le Canada entourant cette édition. Il rappelle toutefois que l'adoption à l'unanimité par les Nations Unies de la trêve olympique, donc ce matin que nous on dormait, hein, en Chine, par un temps glacial mais ensoleillé, les relayeurs de la flamme ont escaladé les marches de la Grande Muraille de Chine dans des montagnes sans neige à 75 km au nord-ouest de Pékin.
Mais
le célèbre acteur Jackie Chan, tu connais Jackie Chan?
Oui.
Bon, il faisait partie des porteurs de torches.
Ah bon?
C'est un petit comique. Se disant très fier de représenter la Chine à cette occasion. Voilà.
Bon, ok. De toute façon, lui, il est chinois-chinois ou bien américano-chinois ou bien chinois-américain?
Ben, je pense qu'à la base, il est chinois quand même. Hein.
Ouais, d'origine.
D'origine. Il est très fier de l'être d'ailleurs. Hein.
Ouais, ouais.
Alors, pour ce qui concerne la délégation canadienne, le Comité olympique canadien, le COC, a finalement dévoilé son équipe au complet. C'est le troisième plus important contingent en importance du pays aux Jeux d'hiver. Donc, 215 athlètes qui se rendront en Chine. 106 sont des femmes. Donc, je pense comme l'été, ils vont nous faire honneur, les femmes. Le plus grand nombre jamais enregistré, ils disent, dans l'histoire du Canada, cette compétition, qu'il y ait autant de femmes comme ça.
Mais ce qui s'est passé dernièrement, là aussi, les femmes étaient en surnombre, non?
C'est ça. Et
elles étaient plus nombreuses.
Elles ont raflé beaucoup de
médailles. C'est mieux comme ça, d'ailleurs, parce que je pense...
elles donnent plus de résultats.
Je pense que c'est mieux comme ça. Il y a des femmes dans ce genre de compétition, on a assez de médailles qui reviennent au pays.
Exact.
Ouais.
Exact.
Mmh.
Alors, l'Ontario sera la province la mieux représentée, comme toujours, au sein d'équipe Canada, avec 60 athlètes suivis de près par le Québec, avec 57. Et les porte-drapeaux, hier, le COC a annoncé que le patineur de vitesse courte piste, le grand fameux Québécois Charles Hamelin, et la hockeyeuse Marie-Philippe Poulin seront les porte-drapeaux du Canada pour la cérémonie d'ouverture qui va se passer dans quelques heures. En passant, c'est à 6h30 ce matin, ceux qui veulent se lever pour la regarder.
Myriam, si j'ai bien compris, il y a quelques jours, si ma mémoire est bonne, je pense bien que c'est son dernier JO.
Oui, ben, il est à la fin. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein,
voilà.
À un moment donné, les jambes ne peuvent plus suivre. Hein?
Oui, c'est vrai.
Ce sont deux des plus grands athlètes québécois des 15 dernières années. Ben, oui. Ça donne une idée, ça fait 15 ans qu'il est là.
Et puis, il faut savoir prendre sa retraite quand on est encore en forme.
Ben, surtout quand on voit qu'il a eu des difficultés dernièrement dans les championnats du monde. Hein. Il est arrivé troisième du bout des pieds, il est arrivé cinquième dans une autre compétition. Donc, il s'est dit, il est très temps de laisser la relève.
Voilà, laisser la place à la relève. Ouais.
Quelques résultats déjà, Fulgence, parce que tu sais, la cérémonie arrive, mais il y a toujours des jeux qui commencent avant.
Oui, j'appelle ça les mini-jeux.
qui commencent, exact. Alors, au curling mixte, les Canadiens Rachel Honan et John Morris se sont inclinés, malheureusement, 6-4 contre la Grande-Bretagne, mais ils se sont rattrapés le soir même en jouant contre les Norvégiens et ils ont gagné dans un match serré, 7-6. La ronde préliminaire va se poursuivre jusqu'à lundi matin et les matchs pour l'obtention des médailles seront mardi, donc c'est à surveiller. Épreuve des boss. Alors, notre champion en titre, bien sûr, Michael Kingsbury, a dominé la compétition et Justine Dufour-Lapointe, une des trois sœurs, accède à la finale de l'épreuve des boss. Sa sœur Chloé Dufour-Lapointe, ainsi que Sofiane Gagnon et Laurent Dumé devront, quant à eux, passer par la deuxième épreuve. Au hockey féminin, pas de grande surprise, les Canadiennes l'emportent 12-1, Fulgence, contre les Suisses du tour préliminaire. Quelle domination tout de suite au premier match, elles ont donné le ton, les Canadiennes au hockey féminin. Alors, ce soir,
qui peut les arrêter selon toi? On ne peut plus les arrêter.
Les Américaines, quand même. Il ne faut pas les oublier. Les Russes. Les Russes aussi sont là. Hein. Attention.
Ah oui, mais les Canadiennes, elles sont en forme. Hein.
Oui. Elles sont en forme. Tout ce qui est soccer.
L'esprit d'équipe, professionnalisme, bien entouré, bien encadré. Elles raflent tout sur le passage, quoi.
Oui. Alors,
je les adore, je les admire, on leur dit bravo.
Bravo. Oui. Elles ont donné le ton en tout cas, alors on dit nous sommes là déjà, 12-1. Alors, ce soir, au programme, vous pouvez regarder le patinage artistique qui entre en jeu avec les couples en danse rythmique, j'aime beaucoup ça, danse rythmique. Nos Canadiens avec Piper Gill et Paul Poirier seront là. Également, chez les hommes, le programme court. Et, écoute cette histoire encore, le Canadien Roman Sadovski sera des épreuves en remplacement du champion, notre champion en titre Keegan Messing, champion en titre canadien, qui, lui, il n'a pas pu fournir deux tests négatifs à la COVID-19 parce qu'il a été positif il y a 3 semaines. Il est toujours coincé au Canada. Il ne lui donne pas le laisser-passer. Mais il a encore une chance pour participer la semaine prochaine au programme.
Il a eu deux tests négatifs.
Il lui faut deux tests négatifs pour rentrer en Chine. Il est négatif. Il faut attendre 48 heures. Le deuxième doit être négatif pour qu'il puisse rentrer.
Les bonnes étoiles ne sont pas avec lui. Hein.
Non. Alors, c'est lui, hein, notre champion canadien.
Oui.
Alors voilà, je vous en parlerai certainement beaucoup plus la semaine prochaine. On va parler maintenant du soccer, car vous savez, je vous avais parlé de ça la semaine dernière. C'était 3 matchs importants pour la qualification du Canada au Mondial du Qatar 2022 en novembre prochain.
Mais ceux-là aussi, Miramar, de continuer. Mais cette équipe canadienne de soccer, là, elle n'arrête pas de me surprendre.
Oui, c'est formidable.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, le sport au Canada est devenu si...
La pandémie qui a fait ça.
Oui,
ça
je ne sais pas où ça a déclenché. Oui, là, pour la première fois, on aura la chance. Mais je ne sais pas depuis combien ils ne se sont pas retrouvés en Coupe du Monde de soccer, de football.
Oui.
C'est la nouvelle génération. Là. Il y a quelqu'un, mon voisin me disait, tu sais pourquoi ? Il dit, il y a trop de noirs dans l'équipe maintenant, c'est qui font la force.
C'est ça, c'est pour ça.
Écoute, c'est grâce à eux qu'on va aller là-bas au Qatar.
et je vous avais dit la semaine dernière, donc ils commençaient leur série au Honduras jeudi dernier au soir.
Oui.
Faire les États-Unis et le Salvador hier. Ben écoutez, la série a bien commencé. La sélection canadienne est repartie de San Pedro Sula avec 3 points cruciaux. D'abord jeudi en l'emportant 2-0 contre le Honduras. Sachez que c'était depuis 1985 que le Canada n'avait pas gagné au Honduras. Hein. 1985.
Oui, parce que c'est un pays qui participe à la Coupe du Monde de soccer depuis le début. Hein.
Et on a vu des arrêts miraculeux de notre capitaine Milan Borjan. Hein. Il est incroyable. Il arrive, je ne sais pas si tu as remarqué, dans les matchs, il les regroupe. Puis quand il parle, il l'écoute tous, les petits gamins. Là. Ils
c'est
regardent,
ça, c'est
hein,
ça.
C'est
un sport comment dirais-je, d'équipe.
D'équipe.
Voilà.
Et à ce qui paraît, d'ailleurs, les analystes disent que les Canadiens gagnent parce qu'ils jouent un jeu collectif et pas de superstar dans l'équipe, tu comprends là ?
Et pourtant, c'est tous des grands joueurs, presque.
Oui, alors ouais. C'est la première victoire du Canada donc, dans cette série. Ensuite, ils ont joué contre les États-Unis dimanche, encore une fois, un 2-0 contre leur grand rival. Sous une température hivernale classique de chez nous, ils étaient à Hamilton, Fulgence, ils ont gratté la neige depuis le matin. Pour enlever cette neige, je pense que les Américains, ils ont pris froid là. Alors, ils ont perdu. Et pour bien finir, hier soir, le Canada a battu le Salvador 2-0. Donc, c'est sur cette série de matchs de 3.
C'est vrai. C'est, je suis très content hein, de cette montée dans presque tous les sports. Maintenant, que ce soit surtout le soccer masculin au Canada. Et, bon, les femmes, on les connaît, elles ont toujours été fortes. Voilà. Mais l'éveil tout d'un coup de ces jeunes de la sélection canadienne.
As-tu le drapeau canadien chez toi?
Pas encore. J'attends.
Il faut y aller.
Quand ils seront quand ils seront au Qatar.
Pour le mondial, donc tu le sors à ta fenêtre. Fulgence,
ouais, sur mon balcon. J'attends ce qu'ils soient au Qatar d'abord. Non.
Parce que là, moi, je suis tannée de voir dans nos ruelles les drapeaux italiens, puis espagnols, puis de la France. On ne voit jamais le drapeau canadien.
Myriam, comment il s'appelle le jeune homme, là, celui qui est à Munich, là, David?
Alfonso Davies.
Ah, oui, je ne sais pas. Quelqu'un m'aurait dit qu'il y a un problème de cœur.
Oui, mais j'en ai parlé la semaine dernière. J'avais dit qu'il avait été affecté par la COVID-19. Oui. Et à la suite de ça, il a eu une myocardite, une inflammation du cœur. Et les entraîneurs et tout ça lui ont interdit de jouer pendant un bon bout de temps.
Oui.
Il sera peut-être de retour au mois de mars, car le prochain match, c'est contre le Costa Rica le 24 mars prochain. Là, ils sont en repos maintenant, nos Canadiens.
Oui.
Et voilà, on va peut-être le voir là. Ça sera encore mieux, mais on espère.
Il est très jeune pour avoir un problème de cœur comme ça, voilà.
C'est pour ça qu'ils disent que c'est lié à la COVID-19 probablement, parce qu'elle fait ça. Hein,
on espère que c'est lié maudit virus là.
Oui.
Voilà, on verra bien ce que ça va donner quoi. On lui souhaite un très prompt rétablissement pour qu'il rejoigne ses collègues dans l'équipe nationale.
Et pour la petite anecdote pour finir. Pour sa qualification mondiale, le Pérou aussi, en Amérique latine, jouait dans son groupe contre l'Équateur. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a procédé à des rituels pour faire gagner la sélection de soccer face à l'Équateur. L'Équateur qui avait presque une place certifiée après ce match. S'il gagnait le Pérou, il partait officiellement pour le Qatar. Mais écoutez, les 7 chamans ont jeté un sort devant le stade national de Lima qui aidera l'équipe péruvienne à vaincre son adversaire, disent-ils, lors de la rencontre. Et le chaman principal, Walter Alarcón, a dit « Nous avons vu que l'équipe péruvienne va se qualifier pour la Coupe du Monde.
Oh. »
Et que s'est-il passé?
Oui.
Il y a eu un match nul. Ils ont été tétanisés, l'Équateur, devant le Pérou. Et ils ont raté leur confirmation pour le Qatar.
On laisse la place aux croyants.
Alors le Pérou, ils ont eu 3 points chacun. Écoute. L'Équateur est quand même en 3e position avec 25 points. Le Pérou en 21 points.
Oui.
Il paraît que les matchs à venir, donc il y en a 2, vont décider de la place de l'Équateur pour aller là-bas.
Pour aller au Qatar.
C'est une bataille serrée dans ce groupe d'Amérique du Sud. Voilà,
merci.
Je finis sur ces chamans-là.
Merci beaucoup, Myriam. Merci. Bonne soirée à toi la semaine prochaine.
Bye.
Bye.
Like a glimpse from the past, you conceal the dark in a frame. You're the poster up on the wall. In my dreams, you're the prince and I'm at the bar. Fairy tales, I'm not used to them at all. You got me questioning, what have you done to me? Used to be out of reach. Feel like you're testing me, you're the necessity. Full court press on me. Don't fuck me up, don't let me down. You know I wanna be around. You tugging, warring with my heart. Didn't think it'd ever be so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down. Cause if it's love, I wanna drown. I need to hear it from your mouth. Can't wait no longer, tell me now. Don't fuck me up, don't let me down. Such a risk, but I'm willing to take a chance. What you think when my heart's in his hands? Gotta learn how to let someone in the hold. It take time, gotta trust who I let control. Got me questioning, what have you done to me? Used to be out of
like you're testing me. You're the necessity. Full court press on me. Don't fuck me up, don't let me down. You know I wanna be around. You tugging more and with my heart. Didn't think it ever be so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down. Cause if it's love, I wanna drown. I need to hear it from your mouth. Can't wait no longer, tell me now. Don't fuck me up, don't let me down. If you really care for me, just make sure you're there for me. Feel I'm falling in too deep. That's okay, just rescue me. Let me know what you want from me. Open up, let me in and see. Boy, I know where I wanna be. Just wanna know what your loving means. Oh, don't fuck me up, don't let me down. You know I wanna be around. You tugging warm and with my heart. Didn't think it ever be so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me.
Ok, là on vient d'écouter Elamé, DFMU. Yeah, DFMU, c'est le titre de la pièce. Voilà, ça veut dire quoi? Non, je n'ai pas bien traduire là. Bon, comme j'en parlais en début d'émission avec Myriam d'ailleurs, bon, parce que j'avais déjà préparé, il faut que je revienne là-dessus, cette histoire de football, de soccer, la CAN 2022 pour la... qui se passe au Cameroun. Au Cameroun, on connaît les deux finalistes, le Sénégal et l'Égypte, qui vont se retrouver le dimanche en finale, bien sûr. Hier, le Sénégal s'est séparé, a battu son opposant, d'ailleurs, et je me suis dit, face au Burkina Faso, bien sûr, 3-1, c'était hier, s'est qualifié pour la troisième finale de sa CAN, sa troisième. Mais ils n'ont jamais eu cette coupe-là. Bon, ben, ils sont toujours qualifiés, ils ont été éliminés, troisième. Bon, on se dit, bon, à un moment donné, il faut mettre la main sur le trophée. Et j'espère que cette année, bon, face à l'Égypte, ils vont pouvoir mettre la main sur le trophée. Et parce que selon ce que l'entraîneur, depuis hier, a commencé à raconter depuis leur victoire, l'entraîneur sénégalais, qu'est-ce qu'il a dit? Une finale ne se joue pas, ça se gagne. Voilà. C'est comme ça. Il ne dit pas « je vais à la finale pour jouer, donc je vais pour gagner ». On sait comme ça qu'ils vont gagner demain. Pas demain, le dimanche, je crois bien, si je ne me trompe pas. Voilà, je crois bien que ça va leur permettre quand même d'avoir au moins une étoile. Parce que quand tu gagnes un gros trophée comme ça, tu as fait une étoile, ça te permet d'aller de l'avant. C'était, j'ai vu le résumé du match, je n'ai pas vu tout le match parce que j'étais ici, je me préparais pour venir ici. Donc, le Sénégal qui a maîtrisé le Burkina Faso et se retrouve en finale pour une troisième fois. Voilà, c'est deux pénalties pour le Sénégal annulés après vérification, après l'arbitre, bien sûr. Ce film qui est dû offrir davantage de spectacle, du moins davantage de rythme. Voilà, température 26 degrés avec un taux d'humidité de 10%. Mais les 22 joueurs ont longtemps opté pour la prise minimum de risque. C'était comme ça le... On verra ce que ça va donner. Hein. On verra cette finale-là. Et l'Égypte aujourd'hui qui se sépare, qui bat d'ailleurs sur son terrain là-bas, parce que c'est le Cameroun qui est le pays organisateur, qui a joué la deuxième demi-finale, mais ça c'est durant les 90 minutes. Le temps réglementaire c'était 0-0. Prolongation, je crois, bien encore 0-0. Tir au but, c'est-à-dire qu'on appelle les pénalties. C'est l'Égypte qui a gagné. Donc les Lions immontables vont être dans les tribunes lors de cette finale Sénégal-Égypte, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Parce que l'Égypte, c'est en Afrique du Nord et le Sénégal, c'est en Afrique de l'Ouest. Oh, ça va chauffer. Et ouais, ça va chauffer. Ça tombe dimanche. Peut-être que j'aurai l'occasion de voir ce match en direct, en entier. Si c'est en semaine, bon, je pense que je vais me permettre cette fois-ci. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de finale. Alors, la dernière finale que j'ai vue, c'était la Coupe d'Europe de l'année. Ouais, quand le Real pas le Real, Chelsea a gagné la Coupe d'Europe, des champions. On va en musique pour terminer cette première partie de l'émission avec Olantugi, Angel Tender, Touch, Rhythm.
You're next to me, you erase my fantasy, girl. You know you conquer me in a real life, in a me dream, my mind and subconsciously. Can't believe this love for free. I would not give you all my money. Bright star, never late, never too far. Shine in your love when it's so dark. When it's so dark, bright star. Never late, never too far. Shine in your love when it's so dark. Bad weather can't change you, nah, nah, nah. Imagine a love like mine with an angel. Angel, angel. Just a little time with an angel. Angel, angel. Waited all of my life for an angel. Angel, angel. All of my life for an angel. And you send me an feeling so rich like I win the lotto. Thank you, Lord Father, for blessing me, oh. You send me an angel from up on above. The loving that you give me so divine, I make me fly, I to the sky, I never ever wanna tell you bye, bye, bye. If I do so, me go wanna cry. Bright star, never late, never too far. Shine in your love when it's so dark. When it's so dark. Bright star. Never late, never too far. Shine in your love when it's so dark. Bad weather can't change you, nah, nah, nah. Imagine a love like mine with an angel. Angel, angel. Just a little time with an angel. Angel, angel. Waited all of my life for an angel. Angel, angel. All of my life for an angel. And you send me an
Scal 17-18 avec Fulgence Blas.
Baby, I was chose to do. What's up, guys? Welcome to our channel, or welcome back.
Oui, on vient d'écouter le duo Nick Echo. C'est une reprise de la nouvelle pièce d'Adèle, Easy on Me. Voilà, notre invité est déjà au bout du fil, Nicolas Berube, qui va nous parler de son tout nouveau livre de zéro à millionnaire. Voilà, je ne sais pas comment on fait de ne pas avoir d'argent du tout et d'arriver à être millionnaire plus tard. C'est à la suite, à la sortie de son premier livre d'ailleurs, et très intéressant d'ailleurs, qui c'est suite aux questions que les gens lui posaient qu'il a eu l'idée de sortir celui-là aussi. En parlant d'investissement boursier autour de moi, je constate que le sujet regorge de mythes, d'idées reçues et de croyances inquiétantes. Depuis toujours, l'argent est un aimant à stratégie douteuse. Cela m'a fait réaliser qu'il existait peu de livres en français accessibles et à jour sur le sujet. Pratiquement tout ce que je lisais sur la question était en anglais. Bonjour Nicolas Berube.
Bonjour.
Et merci d'avoir eu le temps de venir parler de ce tout nouveau livre là, de zéro à million. On est investi en bourse sans souffrir. Alors vous allez me donner aux auditeurs les tuyaux, ceux qui n'ont pas. Moi j'ai le livre, je l'ai parcouru, j'ai vu les conseils que vous donnez, tout ça. Mais ceux qui l'ont pas encore lu, ceux qui l'ont pas, il est déjà en librairie. Allez-y vous le procurer. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même.
Je vais bien, je suis très content de vous avoir pour nous parler de zéro à millionnaire. Comment on investit en bourse sans souffrir, Nicolas?
Ben, c'est une question intéressante. En fait, souvent la bourse, c'est vu comme une espèce de casino, si vous voulez.
Oui, je fais partie de ceux-là qui la voient comme ça.
Oui, c'est ça. Je la voyais comme ça aussi pendant longtemps. On voit ça comme un mécanisme où on se dit, bon, certaines personnes choisissent les bonnes compagnies, d'autres personnes choisissent les mauvaises compagnies, puis on attend un peu, on regarde, ah, certaines personnes ont doublé la mise, triplé la mise, certaines personnes ont perdu de l'argent, ça monte, ça baisse. Il y a beaucoup d'idées préconçues, puis moi aussi, je les avais. Et dans le fond, ce qu'il faut comprendre avec la bourse, c'est que acheter des compagnies individuelles, c'est une recette pour avoir des regrets plus tard. Parce que les statistiques nous montrent qu'il y a environ 4% des entreprises qui sont responsables de la totalité des hausses des marchés depuis des générations. Donc, si vous n'avez pas ces compagnies-là dans votre portefeuille, ben vous n'avez pas de bons résultats. Donc, heureusement, il y a des produits maintenant qui permettent d'acheter ce que j'appelle la botte de foin au complet. Au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, on achète la botte de foin.
J'aime ça, acheter la botte de foin au complet.
C'est ça. Parce qu'on sait qu'il va y avoir 2-3 aiguilles là-dedans, mais quand on achète la botte de foin, on possède ces aiguilles-là par la force des choses. C'est ça.
Voilà. Au moment où les Québécois n'ont jamais été admis aussi nombreux à investir en bourse, Nicolas Berube nous révèle comment n'importe quel investisseur peut s'enrichir et battre les professionnels sur leur propre terrain en y consacrant moins d'une heure par année. Nicolas, expliquez à nos auditeurs comment ils peuvent s'arranger.
Mais premièrement, ce que vous avez mentionné, c'est ça, battre les professionnels. Parce qu'on a souvent l'impression que les gens qui travaillent dans l'industrie de la finance et qui circulent en belle voiture et qui vont travailler dans une tour du centre-ville, on a souvent l'impression que ces gens-là ont des connaissances qui leur permettent d'avoir des rendements exceptionnels à la bourse.
Oui.
Des rendements qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Oui. Alors ça, c'est un peu un mythe, si vous voulez, qui est entretenu un peu par cette industrie-là, l'industrie qui veut gérer nos sous pour nous.
Oui.
Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte que ces gens-là qui placent l'argent à notre place, qui nous vendent des fonds communs de placement, nous disant « Ah, vous allez voir, là, c'est bon pour cette année, la bourse, ça va être payant pour vous. » Mais on se rend compte que ces gens-là n'ont pas de boule de cristal. Ils sont incapables, tu sais, je parlais de la botte de foin là, un peu plus tôt,
oui.
Ils sont incapables d'avoir des meilleurs rendements que le marché au complet. Alors, quand je dis le marché au complet, bon, au Canada, c'est la bourse de Toronto. L'indice qui est facilement consultable, c'est l'indice qui s'appelle le TSX, mm-hmm. qui représente, si vous voulez, les 250 plus grandes compagnies au Canada. Donc, cet indice-là, sur le long terme, a connu une croissance moyenne par année d'environ 9 %.
Oui.
Donc, c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent. Les gens pensent, ah, moi, j'ai jamais fait 9 % avec mes placements. Ben non, c'est parce que vos placements, ils sont pas dans la botte de foin. Ils sont dans des produits, justement, que l'industrie de la finance nous propose, nous vend, et qui, comme je le disais, est incapable d'aller chercher le fameux 9 % que la bourse nous donne. Alors, ces gens-là ne font pas de l'argent en battant les marchés, si vous voulez, en ayant des rendements incroyables. Ils font de l'argent avec des frais de gestion. C'est-à-dire, si vous confiez votre argent,
oui.
Ben, il y a 2 % par année qui disparaît, qui font comme neige au soleil. Et ça, ce 2 %-là va à payer justement les gens qui placent votre argent à votre place. Et ce qu'on se rend compte, c'est que payer 2 %, ça peut sembler peu, mais sur une longue période de temps, ça s'accumule et ça fait un peu boule de neige. Et sur une période, disons, de 25-30 ans, c'est à peu près la moitié des gains espérés qui vous reviennent pas. Alors, l'industrie en prend la moitié, vous en prenez la moitié. Donc, c'est très peu de gens réalisent cette situation-là qui n'est pas très avantageuse. Mmh. Et c'est ce que j'essaie de souligner là, dans
mon... Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Bérubé, il est journaliste à la presse. Moi, je le lis souvent d'ailleurs. Il a vécu durant 7 ans aux États-Unis. Oui, en Californie, bien sûr, en tant que premier correspondant du quotidien dans l'Ouest américain. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu 7 ans aux États-Unis qui vous a poussé vers cette histoire de... D'abord, votre premier livre, Les Millionnaires, on ne sait pas comment ils vivent ou bien quelque chose comme ça.
C'est ça.
Ben, et puis, lors d'une de vos conférences, vous attendiez beaucoup plus à des questions sur la vie des millionnaires, mais les gens ont posé des questions beaucoup plus comment eux ils pouvaient investir pour devenir millionnaires.
Oui, ben c'est ça, parce qu'on a tous un peu cette idée. Et puis, tu sais, moi, comment je me suis intéressé à ça? Ben c'est un peu à la fin de ma vingtaine, je me suis dit, bon, là, le 30 ans approche, je commence à être un vrai adulte, là, je devrais savoir comment la bourse fonctionne. Alors là, ben, j'ai commencé à lire un peu et tout ça, et j'ai fait des investissements qui n'ont pas été très fructueux, et c'est ça un peu qui m'a un peu réveillé, puis qui m'a un peu poussé à m'intéresser de plus près aux erreurs et tout ça.
Oui.
Et qui m'a fait en fait réaliser que c'était beaucoup plus simple que qu'on se l'imagine. Il y a toute une industrie qui veut nous vendre l'idée que c'est très, très, très compliqué investir, ça prend des connaissances pointues, il faut être allé au HEC, alors qu'on sait que moins les gens s'y intéressent, mieux leur rendement se porte. Nos placements à la bourse, là, c'est comme un peu un savon. Plus on y touche, plus ça rapetisse. Okay? Donc, il ne faut pas y toucher.
Il ne faut pas y toucher.
C'est ça. Il faut laisser la boule de neige grossir sur une période de, je dirais, plusieurs années, même plusieurs décennies. Et quand on
C'est comme un compte d'épargne.
Oui, c'est ça. Et là, avec une croissance... disons, bon, je disais, la bourse canadienne, c'est 9 % sur le long terme. La bourse américaine, c'est 11 %.
Oui.
Mais là, bon, on pourrait débattre parce que très peu de gens, si vous voulez, investissent à 100 % dans des actions dans leur portefeuille parce que ça, c'est très volatile d'une année à l'autre. Vous savez, on peut faire plus 30, on peut faire moins 30, on peut avoir beaucoup de changements dans la valeur de nos actifs. Donc, la plupart des gens essaient de faire la part des choses entre les actions et les obligations qui sont un peu, de l'argent qu'on prête au gouvernement, qui rapporte beaucoup moins que les actions, mais ça nous permet peut-être de bien dormir le soir quand on voit que nos placements, ben, vont moins chuter. Par exemple, lors d'une crise, par exemple, au début de la crise de la COVID, il y avait une immense crash boursier qui n'a pas duré très longtemps, mais oui. Ça peut faire peur aux gens. Donc, en faisant ça, on peut avoir là justement des placements qui vont fructifier avec les années. Puis il y a même on pourra en parler, des entreprises qui placent notre argent à notre place, donc avec des entreprises qui sont sur le web et qui permettent de nous placer notre argent dans des fonds négociés en bourse qui sont équilibrés, qui ne nous demandent pas de transiger, qui ne nous demandent pas de faire de transactions, qui ne nous demandent pas de connaître la mécanique et tout ça. Donc, c'est un peu automatisé. Puis moi, c'est ce que je recommande, surtout pour les plus jeunes. Il n'y a pas de mise minimum. On peut commencer avec 20 $, 30 $. Oh. Et sur le long terme, on peut en rajouter. Et puis, ce sont les bonnes pratiques. C'est
voilà.
C'est la bonne façon.
Voilà. Et c'est pas parce qu'on a commencé à se lancer en bourse ou bien à économiser qu'on arrête de vivre. Bon, on va continuer. On va faire une petite pause musicale, Nicolas.
Oui.
Et puis, on vous revient.
Parfait.
Merci.
N'aimais pas mon deux pièces séjour. Toi qui voyages, si tu la croises un jour, reviens me dire. Dis-moi un peu si elle porte toujours dans les cheveux ses essences d'amour. Mes rêves sur ses lèvres. Mais promets-moi, t'approche pas trop. Si tu poses tes doigts aux branches de sa peau, tu délires. Sans me méfier, je l'ai serré très fort. Aujourd'hui encore au Chanel, les yeux qui brûlent. Elle est à l'âge des voyages au long cours, des princes arabes et mariages d'amour, des esclaves libres, des histoires à suivre. Moi, je ne rentrais souvent qu'un soir sur deux, et mes amis étaient des gens curieux, difficiles à suivre. Dis-lui, je réapprends à vivre. Et promets-moi, ne t'approche pas trop. Si tu poses tes doigts aux bronzes de sa peau, tu délires. Délire. Sans me méfier, je l'ai serré très fort. Aujourd'hui encore, Chanel, les yeux qui brûlent. Elle n'aimait pas mon deux pièces séjour, mais toi qui voyages, tu la croises un jour. Reviens me dire. Dis-lui que pour elle je donnerai mon dernier souffle et même celui d'après.
Francis Cabrel, si tu la croises un jour. Voilà, avant de continuer avec le nouveau livre des Zéro à Millionnaire, Investir en bourse sans souffrir, enfin un petit clin d'œil au premier livre de Nicolas Bérubé. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Donc on a une fausse idée des millionnaires. Le premier, je ne l'ai pas lu, mais c'est celui-là que j'ai lu. Est-ce que le premier livre, est-ce qu'il y a des millionnaires québécois qui ont lu votre livre et qui vous ont contacté? Parce que ça les concerne.
Ah, c'est ça. Non, mais pour le premier livre, c'est moi qui les ai contactés et puis pour essayer de voir là justement comment ils vivaient. Et parce qu'on a cette idée aussi que les millionnaires, c'est des gens qui habitent les immenses maisons, qui conduisent des belles voitures. Et puis il y en a qui vivent cette vie-là, mais la majorité des millionnaires ne vivent pas cette vie-là. la majorité des millionnaires habitent dans des quartiers de la classe moyenne,
oui.
Conduisent des voitures Toyota, Honda, ont des vies qui sont pas très différentes de celles de leurs voisins qui, eux, ne sont pas millionnaires. Alors moi, c'est ce qui m'intéressait un peu là-dedans.
Je voulais
voir pourquoi ces gens-là ont réussi à accumuler de la richesse alors que monsieur, madame, tout le monde a de la difficulté à payer les dettes, à continuer à garder la tête hors de l'eau dans certains cas. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller rencontrer ces gens-là, aller les voir chez eux, aller voir quel choix ils avaient fait, comment expliquer qu'ils aient obtenu un résultat qui est différent de celui qu'obtiennent la plupart des gens.
Oui, oui. C'est ça qui fait la différence entre ces millionnaires-là et puis les millionnaires bling-bling.
Oui, ben c'est ça. Mais souvent, les gens qui ont le bling-bling, souvent, si on pouvait voir les comptes de carte de crédit, si on pouvait voir tout ce qu'il y a en dessous, c'est pas très joli. Hein. Vous savez, comme moi, ça n'a jamais été aussi simple d'avoir l'air riche. On peut acheter une voiture à crédit, on peut voyager à crédit.
Oui, oui.
Et surtout, avec Instagram, on veut montrer une belle vie, on veut montrer qu'on va au restaurant, on veut montrer des choses comme ça. Donc, mener ce genre de vie-là, souvent les gens qui mènent ces vies-là ont beaucoup de dettes qui soutiennent toute cette consommation-là. Alors, les millionnaires, moi, à qui j'ai parlé, ils ont pas fait ça. Dans leur vingtaine, si vous voulez, ils ont jeté les bases de leur fortune tout bonnement en dépensant moins que ce qu'ils gagnaient. Hein? Souvent, quand on commence à travailler après l'université, disons, après le cégep, souvent, c'est un peu un feu vert pour augmenter notre train de vie. Hein? On se dit, bon, mais là, je suis sur le marché du travail, j'ai un revenu, je change ma voiture, je change mes meubles, je vais au restaurant. Alors, les gens à qui j'ai parlé, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont gardé, si vous voulez, un train de vue plus ou moins d'étudiants parce que ça leur convenait, parce que leur voiture était en bon état. Ils ne sentaient pas le besoin là, de crier à la planète là, qui font de l'argent. Et puis, en faisant ça, ça leur a permis de mettre de l'argent de côté, de l'investir. Puis, quand on reproduit ce comportement-là sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben là, vous commencez à avoir une bonne boule de neige là, qui travaille pour vous. Donc, ça a changé leur vie à ces gens-là.
Oui, oui.
Ils ont moins besoin des banques, ils ont moins besoin même de leur travail. Si leur patron change et ça ne marche pas avec la nouvelle personne, ben ils peuvent dire OK, bye, moi je m'en vais.
Donc, et en plus de ça, ils ne font pas de folles dépenses non plus. Hein?
De folles dépenses, vous dites?
Ils ne font pas de folles dépenses.
Non, c'est ça. Ben, ils vivent des vies, tu sais, ils voyagent avec leurs enfants, ils font du ski. C'est pas des gens non plus qui se privent là, mais lorsqu'on se prive entre guillemets durant notre vingtaine ou le début de notre trentaine, on dégage une marge de manœuvre financière qui nous permet d'investir. Donc là, le message, c'est comme dit Pierre-Yves McSween, plus le compte Instagram est beau à 30 ans, plus la marge de manœuvre est mince pour s'enrichir. Parce qu'à 30 ans, c'est pas le temps d'aller au Club Med et de dépenser beaucoup de sous, même si vous avez les revenus qui vous permettent de faire ça.
Oui.
Ça, c'est à 45 ans que vous allez faire ça. À 30 ans, c'est des voyages moins chers, moins luxueux.
Oui.
Laissez tomber les brunchs à 45 $ le week-end, là. C'est des choses que vous ferez plus tard. Et au lieu de dépenser de l'argent, investissez-le. Donc, l'argent va rester en votre possession, puis il va croître. Donc, chaque dollar que vous êtes capable d'investir dans votre vingtaine, bien, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, chaque dollar va être devenu 5 $, 6 $, 10 $. Donc, vos placements vont pouvoir payer une partie de votre train de vie plus tard au lieu de tout faire porter ça à votre salaire et à votre carte de crédit. Donc, c'est un peu ça le message aussi. C'est l'enrichissement rapide et foudroyant, ça fait rêver, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, voilà. Non, c'est la patience.
C'est la patience, oui.
Les habitudes, c'est de dire, au lieu de dire, ah, il n'y a plus rien dans le frigo, ah, je fais venir un repas, ça va me coûter 50-60 $, au lieu de faire ça, ben, on s'arrange pour justement là, avoir de la nourriture congelée qu'on peut dégeler rapidement, puis le repas, il va nous coûter 5 ou 6 $ au lieu de 60 $.
Au lieu de 60 $, oui. Oui,
ben, oui, pour un repas qu'on va avoir oublié 24 heures plus tard. Donc, tu sais, l'idée, c'est pas de se priver, mais c'est de faire des choix et de se rendre compte, dans le fond, que notre salaire, c'est chaque dollar qu'on a, c'est du pouvoir.
C'est du pouvoir, oui. Oui,
oui, oui, quand on fait des achats, on remet ce pouvoir-là aux fabricants automobiles, on les remet aux vendeurs de téléphones cellulaires,
oui.
On les remet aux épiciers, aux restaurateurs. On leur dit, je vous donne mon pouvoir, allez, prenez-le, c'est à vous maintenant.
Oui.
Alors, si on commence à voir les choses sous cet angle-là, on réalise que chaque dollar qu'on a, chaque 5 $, chaque 10 $, a le potentiel de travailler pour nous pendant toute notre vie, mais ça, c'est si on le garde. Si on le remet aux autres, c'est eux qui vont en profiter.
Ouais. Pour les dernières 30 secondes qui nous restent, Nicolas, bien investir ne demande pas d'être très intelligent, mais investir, bien investir demande d'être patient.
Exact, exactement. Et c'est pour ça que plus on commence jeune, moins on a besoin de mettre d'argent de côté, plus le marché fait le travail pour nous, mais tout n'est pas perdu lorsqu'on commence plus tard dans la vie. Il n'y a pas d'âge pour assainir ses finances et faire des bons placements.
Merci beaucoup Nicolas Burivé, auteur du livre « Des zéros à millionnaire ». Vous pouvez son premier livre aussi, ne l'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore. « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », c'est ce qu'il a expliqué tout au long de cette conversation que j'ai eue avec lui. Et puis le deuxième qui vient de sortir, « Des zéros à millionnaire », »,« Investir en bourse sans souffrir », Nicolas Burivé, journaliste à la presse. Merci beaucoup Nicolas, au plaisir de vous réentendre sur un autre, voilà, pour un numéro 3 peut-être. Pourquoi pas?
Peut-être, on y réfléchit.
Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
Merci, au revoir. Gabriel Biko. Voilà, on a la fin de l'émission comme ça. On dit merci à Myriam Larache qui est venue nous parler du sport ici et de notre invité en deuxième partie d'émission, Nicolas Burivé, journaliste à la presse de zéro à millionnaire. Il est auteur de ce livre-là, Investir en bourse sans souffrir. Là, c'est son deuxième livre et le premier qu'il avait, c'est « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Effectivement, il a tout expliqué au cours de cette conversation. Merci à toi, Nicolas Svatman. Voilà. Et merci aux auditeurs, auditrices qui nous sont si fidèles. Voilà. Toi, on se revoit le lundi. Merci à toi. Bonne fin de semaine et je vous dis ciao.